Bonjour, voici la deuxième rediffusion du mois d'août. J'ai choisi de mettre à l'honneur Sophie Astrabi. Ce que j'ai aimé particulièrement dans cette interview et avec elle, c'est son authenticité. Elle est également la preuve qu'on peut ne pas avoir confiance en soi et réussir. Depuis cet enregistrement, Sophie a sorti son deuxième roman, qui est un vrai carton et que je vous recommande évidemment. Je suis tellement heureuse pour elle. Belle écoute.
Au moment où je démissionne, on te dit que c'est ça le point final. Tu dis mais trop cool la vie, mais génial, mais c'est incroyable et tout. Après, ça se fait progressivement, donc tu passes des étapes. Et donc, tu arrives là, mature, avec ton petit escalier que tu as monté. Et on oublie souvent, quand on vous regarde le succès, entre guillemets, des autres personnes, que tout ne s'est pas fait un jour du tout, tu vois. On voit toujours le point final, mais la première phrase, elle est toujours compliquée, en fait. On est forcément stressé quand on commence quelque chose, on est forcément en doute. Dans le futur, on se regarde dans le passé, on se dit, ben, en fait, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Sauf que ça, on peut pas le savoir. Donc, il faut juste dire aussi qu'on se lance aussi. Peut-être un jour, on se regardera en se disant, mais c'était pas la raison de s'inquiéter. Écrire un livre, c'est une forme d'entreprise comme une autre. J'ai eu la chance de pas échouer, en fait, dans le... Enfin, la chance ou pas, d'ailleurs, justement, parce que dans la vie, on échoue. Et du coup, c'est important de se dire que c'est possible d'échouer et de réussir après. Moi, j'avais réussi au premier coup et je me disais, en fait, c'est peut-être un coup de chance.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quand j'ai lancé le podcast, Sophie a été parmi les premières personnes que je rêvais d'interviewer. J'avais découvert son parcours car elle est l'héroïne d'un pic-parole, l'un des super podcasts que j'aime tant réalisé par Pénélope Boeuf, que j'ai pu interviewer également. Sophie a un parcours hors norme qui lui a demandé beaucoup de courage. Nous avons fait cet enregistrement il y a désormais quelques mois. C'était l'époque des grèves où il faisait un froid polaire. Entre-temps, il y a eu du nouveau sur la sortie de son prochain roman. Je vous en parle à la fin de l'épisode. Avant de vous présenter Sophie et de lui donner la parole, j'ai toujours besoin de vous pour me permettre de faire connaître le podcast. Comment ? En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. Si vous n'avez pas d'iPhone, mais un Mac, bonne nouvelle, vous pouvez le faire. Revenons-en à la merveilleuse Sophie. Après des études de commerce, elle a réussi à décrocher son premier CDI en tant que junior product manager au Nouvel Ops. Mais cette vie n'était pas celle dont elle avait rêvé. Alors, à 25 ans, elle décide donc de démissionner pour écrire un roman. Son rêve était d'écrire et non publier un roman. Ce détail fait toute la différence, car après avoir fini son premier livre, elle le range dans un tiroir et reprend un nouveau CDI. Cette fois-ci, c'est l'entreprise qui lui dit stop. Sûrement un cadeau mal emballé de la vie, car c'est ce qui va la pousser à sortir au grand jour son manuscrit. Aujourd'hui, Sophie va publier son deuxième roman d'ici quelques semaines. Mais je ne vous en dis pas plus. Bienvenue dans l'univers de Sophie Astrabi. Bonjour Sophie.
Salut Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît?
Oui, alors c'est un dessin que j'ai acheté Place des Tertres à Paris. Et en fait, ça représente un bonhomme très minimaliste qui est au bout d'un petit fil dessiné aussi et qui se penche légèrement. Et ça donne l'impression qu'il va sauter ou pas d'ailleurs. Et j'aime bien ce dessin parce que déjà, c'est une grande page blanche avec presque rien dessus. Et donc ça laisse beaucoup de possibles et on se demande si ce bonhomme il va sauter ou pas. Et je trouve que c'est une belle métaphore de beaucoup de choses dans la vie, d'être au bout du fil et de décider son fil. Est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, est-ce qu'on saute ou est-ce qu'on saute pas. Et donc c'est ce dessin que j'ai apporté aujourd'hui.
Toi, tu as sauté le pas, donc tu es devenue auteur. Avant de parler de ça, est-ce que tu pourrais nous raconter qui était la petite Sophie et d'où tu viens?
Alors, je viens d'Albi, c'est une petite ville à côté de Toulouse. Qui j'étais? Alors, j'ai une petite fille assez casse-cou, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais en gros, j'ai un grand frère, je pense que ça a beaucoup joué parce que j'ai beaucoup voulu être à la hauteur de lui, de le suivre partout. J'ai aussi un cousin, donc c'était vraiment de toujours... pas qu'on sache que j'étais une fille ou que j'étais différente, qu'il fallait que je suive à tout prix, donc je me mettais beaucoup de défis. très sportive.
Quel type de sport ?
J'ai fait du basket pendant très longtemps. J'ai fait un sport-études aussi.
Un sport-études basket ?
Ouais,
ah, génial.
Ouais, j'ai fait ça en troisième, donc je suis partie en internat. Pour mon rêve, ouais. C'était aussi une façon, un rêve d'une certaine façon. Je me voyais bien devenir championne de basket, et un peu pas du tout.
Pourquoi du coup t'as pas continué ?
J'ai pas continué parce qu'en fait j'ai trouvé ça quand même assez dur, c'est-à-dire que donc l'internat c'est quand même dur. Et j'avais l'impression, je faisais que ça en fait, je faisais du lundi matin, je partais de chez moi, je sais pas, il devait être 7h du matin, mon père me déposait, c'était à 1 heure de route. Et en fait, je passais la semaine où tous les jours j'avais des entraînements. Le jeudi deux fois, et après le vendredi on faisait 1 heure de route à nouveau vers Toulouse parce que mon club de basket était à Toulouse. Et donc là, je me rentraînais. Je rentrais chez moi. Il était minuit, et le samedi c'était mon jour off, le seul. Et le dimanche, on repartait à travers la France parce qu'on était un champion de France pour jouer. Et en fait, j'étais là, mais en fait, je fais que ça. Et je n'étais pas une personne qui faisait que ça. Et puis c'est vrai que je me suis aussi rendu compte au cours de cette année que le basket en vivre, y arriver déjà à être assez forte, clairement, je l'étais pas, et que pour vraiment en vivre, il fallait être vraiment très, très, très forte. Et donc, assez vite, je me suis dit que ce n'était pas suffisant.
Ouais. Et à ce moment-là, c'est génial que tes parents t'aient laissé écouter cette petite voix.
Ils n'étaient pas d'accord.
Non.
On va le voir plusieurs fois. Ils ne sont pas toujours d'accord. Non, ils n'étaient pas d'accord. C'était vraiment compliqué de les convaincre. Et je me souviens très bien de ma mère, une fois, qui m'avait dit un peu en craquant, « Bon, de toute façon, tu fais ce que tu veux. » Parce qu'elle n'y arrivait pas à me faire... En fait, c'était compliqué pour elle parce que c'était ne pas me laisser faire quelque chose, c'était quand même dur, mais en même temps, elle avait pas du tout envie que je parte en sport et en internat à 14 ans. Et je me souviens aussi que pour prendre la décision, c'était pas facile pour moi. Et chaque jour, à partir du moment où on m'avait appelé pour me dire on voudrait que vous veniez à notre sport-études, j'écrivais chaque jour sur un carnet oui ou non, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et je me souviens que le seul jour où j'avais dit non, c'est le jour de mon anniversaire, donc j'ai fait bon, ben j'y vais.
Ça, c'est une belle histoire. Et qu'est-ce que tu faisais d'autre ? Tu te disais, bon, à 14 ans, j'aimerais être basketteuse professionnelle. Est-ce qu'il y avait un autre métier où tu te disais... tu rêvais quand tu avais 6 ans ?
Non. Alors, j'ai rêvé de beaucoup de choses. Je sais que j'avais un journal intime et j'avais écrit dessus qu'un jour, je voulais être écrivain.
Ouais.
Mais c'est une lubie comme une autre. Je voulais être aussi... qu'est-ce que je voulais être ? Vétérinaire, j'ai voulu être pompier, j'ai voulu être... plein de choses, en fait. J'ai pas un souvenir de m'être dit d'une façon sûre et certaine, c'est ça que je veux faire. Chaque jour, ça changeait un peu.
D'accord. Donc là, tu te dis, bon, le basket, non. Donc tu recommences la filière générale.
Ouais.
Et donc tu fais une école de commerce.
Ouais, alors plus tard, du coup, parce que.
Entre-temps, il y a des étapes entre deux.
Il y a le lycée. Avant le lycée, moi, j'étais cette personne qui, à 18 ans, ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire de sa vie et qui avait un peu loupé le moment où il faut faire ses vœux. Donc, j'étais assez perdue. Donc, j'avais beaucoup écouté les gens qui m'avaient dit « tu devrais faire ça » parce que j'avais pas d'avis et que... Enfin, c'est pas que j'avais pas d'avis, mais c'est que ça me paraissait fou de faire des choix si tôt dans la vie.
Et tes parents, eux, ils te voyaient quoi ?
Alors, j'ai pas un souvenir qu'on parlait d'avenir aussi, de manière aussi claire. Je me souviens, enfin, ce que je dis souvent, c'est que clairement, on est une famille où faire des études, c'était valorisé.
Ouais.
Parce que mes parents n'en ont pas fait.
Ils font quoi, tes parents?
Mon père, il travaillait dans une banque, il était employé de banque. Toute sa vie, il m'a dit de marquer employé de banque, alors que je pense qu'il faisait beaucoup plus que ça, mais. Ça me fait rire aussi de se dire juste employé, on sait pas plus que ça. Bon, bref. Et ma mère était responsable administrative. Et donc voilà, enfin, quand je dis qu'ils ont pas fait d'études, ils ont pas le bac. Je me suis toujours dit que c'était une autre époque. Après, c'est un autre contexte, c'est plein de raisons.
Ouais.
C'est vrai que ça a pas été une option de pas faire d'études dans ma tête, en fait.
D'accord.
J'ai toujours voulu faire des études longues et j'ai toujours aimé ça.
Ok.
Mais je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai fait d'abord un DUT à Toulouse et j'avais un grand objectif qui était de parler anglais à tout prix. Donc je tannais ma mère depuis mes 15 ans justement.
Pourquoi
disant,
l'anglais ?
Je ne sais pas, c'était un rêve d'ouverture
vers le monde.
Incroyable, voyage. J'ai toujours beaucoup voulu voyager alors que pour le coup, ma famille n'est pas une famille qui voyage beaucoup, qui est très portée vers tout ça. Et moi, je voulais à tout prix faire fille au père. C'était ma grande obsession. Fille au père aux États-Unis, parler anglais. Et ma mère a dit non, quand t'auras le bac, quand t'auras le bac, quand t'auras le bac. Après, quand j'ai le bac, du coup, on fait autre chose.
Ouais.
Mais et avec le DUT, j'avais l'opportunité de faire une année de licence à l'étranger en Angleterre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était une sorte de rêve aussi.
Ouais.
Et donc voilà. Et après, là, on m'a dit, est-ce que tu ferais pas une école de commerce ? Tu peux rentrer en parallèle J'ai fait bon, ok, je passe les concours. Et en fait,
là, t'as dû convaincre encore tes parents. J'ai souvenir que tu m'as dit un jour qu'on a ton chéri de l'époque avait fait un tableau Excel.
Qui m'avait fait un tableau. Parce que lui, du coup, il avait plutôt une famille où l'option de l'école de commerce était une option. Et lui, donc, il était plutôt convaincu. Et il m'avait fait un tableau Excel des coûts que ça représentait, si on les échelonnait, combien ça reviendrait à mes parents, les aides qu'il pouvait y avoir. Et il m'a dit, tu verras, c'est quand même un bon investissement, ce qui est vrai. Et enfin, plus ou moins, mais en tout cas, c'est un cursus qui m'a apporté beaucoup. Et donc je l'avais présenté à mes parents. Et donc, mes parents, qui sont quand même des gens qui ont toujours dit oui quand c'était pour se réaliser quand même. Enfin, ils nous ont soutenus. Je pense souvent aussi qu'un jour, je leur avais dit que je voulais faire du cheval. Ce qui n'est pas du tout dans notre famille, quelque chose qui se fait. Et je sais que ma mère n'était pas pour. Je vois avec le recul, j'ai un souvenir et tout. Elle m'avait dit OK, alors que ça coûte quand même de l'argent faire du cheval et tout. Et je me souviens très bien que quand elle m'avait dit si t'es pas sûre de vouloir faire du cheval, surtout, ben on arrête, tu vois. Genre, elle n'était pas non plus.
T'es pas obligée de persister.
T'es pas obligée de persister. Et donc voilà, donc bref. Et donc, à partir du moment où j'avais dit ça, ils étaient plutôt toujours en me soutenant. Voilà.
C'est chouette. Donc là, l'école de commerce, tu commences, tu te fais embaucher.
Je me fais embaucher. Alors, j'étais un peu stressée de ne pas y arriver, de ne pas trouver de boulot. Donc, j'en trouve une offre, en tout cas, au Nouvel Observateur. Et moi, je trouvais ça bien, le Nouvel Observateur, parce que j'ai quand même toujours aimé l'écriture, quoi qu'on dise. Quoi que je dise, parce que personne ne dit rien.
Oui, c'était pas... c'est quelque chose dont on parlera après, mais c'était pas quelque chose où les gens te disaient « Ah, mais qu'est-ce que t'écris ?» Les gens t'ont jamais dit « Qu'est-ce que t'écris bien ?»
Non, enfin, bien sûr qu'on a le souvenir... Enfin, moi, j'avais le souvenir au collège d'adorer le moment rédaction. Je suis là, mais c'est génial qui a inventé cette matière, cette partie de français. Donc, j'ai toujours été plutôt cette personne-là qui écrivait plutôt bien. Mais après, de là à m'imaginer écrire un livre, non.
Non.
Voilà. Et donc, j'ai un peu foncé, tête baissée, en me disant j'ai surtout pas envie d'être au chômage, j'ai surtout pas envie de revenir chez mes parents. Et en fait c'était assez déceptif parce que c'était pas à la hauteur des stages qu'on peut faire parfois en école de commerce où on nous responsabilise pas mal et en fait j'avais une impression de retour en arrière surtout il y avait aussi des valeurs qui me correspondaient pas vraiment et beaucoup d'exécution et je me disais mais c'est fou mon cerveau va s'atrophier si je continue là-bas.
À quel moment tu t'es dit pourquoi pas moi?
Alors c'est un processus qui est plutôt lent en fait dans le sens où on prend pas je prends pas des décisions aussi fortes de démissionner puisque c'était ça la question de démissionner sans avoir un peu analysé la situation. Puis c'est vrai que on a aussi autour de nous des gens qui nous disent mais t'as signé ton CDI, est-ce que tu veux te lancer dans tout ça? Et donc moi,
t'étais jeune.
Ouais, j'avais 25 ans, je pense. C'était mon premier boulot. Et donc c'était ça aussi ton premier boulot. Donc je me disais souvent, est-ce que t'es pas en train de surréagir aussi, de te dire un premier boulot, c'est toujours tu te démarres doucement. Souvent je fais le rapprochement avec. Quand on est à la maternelle, en grande section, on est les grands de l'école. Et en fait, l'étape d'après, c'est d'être les petits du primaire. Et après, on est les grands en CM2 et on devient les petits du collège et ainsi de suite. Donc là, c'est juste, je suis la petite du monde professionnel. Prends juste ton mal à patience. C'est normal qu'au début, on te donne pas le plus grand rôle de la Terre. Juste attends un petit peu et puis voilà. Et puis, on me l'avait un peu dit aussi, Sophie, est-ce que t'es pas une maternelle insatisfaite? Ça va pas. Laisse le temps au temps. Donc j'ai un peu laissé le temps au temps, mais à côté je commençais quand même à réfléchir à quelque chose qui a plus de sens. Je sais pas si je me suis tout de suite dit Sophie, est-ce que tu vas écrire un livre? Je me suis surtout dit ce que tu fais c'est hyper décevant, t'es pas heureuse, t'es pas fière de ce que tu fais. De quoi tu serais fière? Et en fait, je me suis dit que c'était un rêve d'écrire un livre et c'est comme ça que je suis arrivée à ce point-là.
Donc là, tu t'es dit, je vais commencer à écrire un blog pour pouvoir te voir si tu pouvais avoir la rigueur d'écrire régulièrement.
C'est ça. La rigueur, parce que j'ai envie de faire plein de choses dans la vie en général et que je les fais pas pour autant. Enfin, beaucoup de gens sont comme ça, je pense, c'est un peu la nature humaine. Donc d'aller au bout des choses, c'est déjà pas c'est quelque chose qu'il faut savoir est-ce qu'on en est capable ou pas. Et puis j'avais aussi la peur de pas réussir à être lu parce que je trouve que c'est très intime d'écrire et puis quand on nous critique sur ce qu'on a écrit, on nous critique assez fort sur la personne qu'on est puisqu'en fait les mots c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense c'est ce qu'on est. Et donc je me disais il faut que tu sois capable d'être lu parce que si on parle d'écrire un livre moi, je me suis jamais dit, j'écris un livre que pour moi, que pour me prouver moi-même ce que je suis capable de faire. Moi, je me suis dit, j'écris un livre et des gens vont le lire, même si c'est que ma mère ou mon père. Donc, il fallait que ce soit quelque chose de possible d'être lu.
Et à l'époque, donc aujourd'hui, Sophie Astrabi, c'est un pseudo. Ouais. Tu écrivais sous ton nom, ce blog?
Non, je sais même pas comment j'avais trouvé ce nom. J'avais appelé ça Vernis et Brocoli. Et il y avait une genre de punchline nulle. Dans la vie, tout n'est pas vernis, je crois. Et donc voilà, je sais pas comment ça m'était venu, mais bon, c'était juste une plateforme comme une autre, un support comme une autre. Donc voilà.
Donc là, tu lances ton blog. Les gens commencent à lire et te faire des retours en disant c'est super.
Ouais.
Tu vois que tu y arrives. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui fait que tu vas voir ta boss et tu lui dis je démissionne?
Alors, j'ai pas un souvenir d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ça devait être sûrement un peu ça. Hein. Mm-hmm. Ça devait être un jour qui m'a plus saoulé qu'un autre, je sais pas. Sachant que pour moi, c'était hyper dur d'aller voir ma boss. Enfin, je suppose que ça allait être dur pour beaucoup de gens, mais moi, je trouvais ça une montagne d'aller la voir. Surtout qu'on m'avait fait confiance en me proposant un CDD puis un CDI. Donc je me disais, est-ce que c'est pas une certaine manière de trahir leur confiance? Et puis, c'est pas dans ma nature, ni dans ma culture, ni dans mon éducation, de démissionner ou de laisser tomber. Et donc, quand je suis allée la voir, en plus, je me suis dit, il faut que j'obtienne une rupture, en fait. Et je sais que je suis pas très bonne en négociation, donc je suis arrivée, je lui disais que je voulais une rupture, elle m'a dit non. Et j'ai dit, d'accord.
Ok, madame.
Ok, madame, pardon, excusez-moi, merci beaucoup. Et donc voilà, et après, c'était parti.
Et quand t'as décidé, du coup, de démissionner, comment l'a vécu ton entourage?
Alors, il y a l'entourage, on va dire le cercle un peu éloigné qui, lui, trouvait ça génial. quel courage, bravo, suis tes rêves, suis tes passions, trop bien. Et puis, l'entourage plus proche où, bon, j'avais pas démissionné sans en parler à mes parents. On en revient souvent, on dirait que j'ai 18 ans. Mais en gros, ça a été important pour moi que mes parents ils soient quand même d'accord. Parce que, comme je le disais, ils m'ont soutenu dans beaucoup de choses. Ils m'ont payé mes études, même si c'était un effort financier pour eux. Donc, je me voyais mal dire merci beaucoup d'avoir fait des efforts et de vous être un peu serré la ceinture. Mais en fait, non, quoi. Moi, je vais juste écrire un livre. Et donc, je voulais qu'ils soient quand même assez d'accord. Quand j'ai démissionné, ils étaient au courant, donc ils m'ont dit ok, vas-y maintenant, fonce. Mais c'est vrai qu'au début, ils étaient complètement, mais comment on peut avoir l'idée de démissionner d'un CDI?
C'est ce qu'ils te disaient?
Ouais, c'était ça, c'était ça, mais. Enfin, en plus pour eux, le nouvel op, c'était bien, mais pour tout le monde, c'est très bien. C'est juste que le poste que j'avais, l'équipe, le domaine, enfin plein de choses. Enfin, l'équipe était très sympa et tout, mais je veux dire, c'était juste.
C'était pas ce qui t'animait.
C'était pas ça,
ouais. Ouais. Donc là, tu démissionnes, tu vas écrire un livre, mais tu sais pas sur quoi.
Je sais pas sur quoi. Donc, j'étais à Paris. Comme j'ai pas eu ma rupture, j'avais plus de revenus financiers. Donc, je me suis dit, je rentre chez mes parents.
Et puis, t'avais pas eu le temps d'épargner pendant plusieurs années.
Non, voilà. Et puis, je pense qu'il faut beaucoup épargner. Ouais. Voilà. Et donc, je me dis que je rentre chez mes parents pour écrire. Mais je me dis, entre le Paris et Albi, du coup, est-ce qu'on ferait pas une petite transition? Histoire de se mettre les idées en place. Et donc, j'avais un ami qui travaillait à Marseille. Donc, je suis allée le voir. En me disant, c'est un lieu neutre, en fait, Marseille, que je connais pas. Ça va un peu faire sas de décompression. Et donc, je suis allée là-bas. Et j'y réfléchissais beaucoup. Je me disais, maintenant, ça y est, j'ai démissionné. Donc, il va falloir trouver l'idée. Mm-hmm. Et en fait, en faisant une marche dans les Calanques, je sais plus comment j'en suis venue à me dire, en fait, ce que tu as vécu là, cette pression que peut y avoir de l'entourage de pas démissionner, de démissionner, la pression aussi, j'avais 25 ans, donc il y a aussi la pression aussi, faut être en couple un petit peu, commencer à une époque, avoir 25 ans, fallait être une jeune fille mariée avec des enfants, qui est pas si lointaine. Et donc voilà.
Et
donc,
Catherinette.
Les Catherinettes, c'est à ça que je pense.
Ouais.
Et donc, je me pensais à cette pression sociale et que parfois, on préférait se tourner vers son passé et s'accrocher à des trucs plus sûrs que de voir l'avenir en se disant, en fait, peut-être que la solution, elle est dans le futur, quoi. Et c'est un peu l'idée que je développe dans mon livre voilà, est-ce qu'on se tourne vers son passé ou est-ce qu'on se va vers son futur
et on saisit les opportunités.
Voilà, c'est ça.
Donc là, Marseille, t'as l'idée, tu rentres chez tes parents pour écrire après. Et comment ça se passe ton quotidien?
Bah, hyper sérieux comme quotidien, parce que c'est vrai que j'avais l'impression de faire quelque chose de totalement fou, de hors sentier battu. Et donc, je voulais avoir un cadre. Et c'est vrai qu'on est hyper... dans nos vies, je trouve, on est très conformés à des choses. Donc, on apprend à se lever le matin à 7 heures, à commencer le travail à des heures précises, à s'arrêter. On sait très bien qu'en fait, si tu pars du travail à 17h50 ou si tu pars du travail déjà à 18h10, ça change tout, alors qu'il y a 20 minutes entre les deux. Enfin, même si ça reste tôt, bon, bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais besoin de ce cadre-là. Donc, je me levais tous les matins, je m'asseyais à une table avec mon ordinateur. Et en fait, je faisais même ma semaine des 5 jours en me disant, il me faut des jours off comme tout le monde pour aller aussi prendre l'air, parce que c'est quand même assez solitaire comme métier.
Ouais, bah oui, t'es toute seule face à ton ordinateur et toi-même.
Ouais, et puis ça me rassurait donc d'avoir ces horaires-là, parce que je me disais, bah, je fais quelque chose, en fait. Et puis même mes parents qui pouvaient passer à côté, ils me voyaient assise en train de travailler. Donc, je me disais, bah, c'est une sorte de, enfin, c'était un gage de sérieux. Et puis, c'est vrai que je disais à tous les gens que j'écrivais un livre, mais je voulais y arriver. Donc, je voulais que déjà, je paraisse y arriver et qu'en plus, j'y arrive. Quoi.
Ouais, enfin, que c'est tu voulais montrer que tu te donnais les moyens.
Ouais, c'est terrible, parce qu'en fait, même dans ça, on se retrouve face à une pression sociale. En fait, ça s'arrête jamais, en fait.
Donc, c'est un vrai sujet, je pense, le regard des autres. Et même, j'en parlais ce week-end avec des amis, on disait même... Avant, c'était juste l'univers professionnel. Et même maintenant, les amis vous regardent avec un regard de qui tu es par rapport à ce que tu fais, en fait.
Ouais. Mais ça ne s'arrête pas, dans le sens aussi que même aujourd'hui, en étant quelqu'un qui écrit, déjà, quand est-ce que je vais dire que je suis écrivain, vraiment, je ne sais pas. Et en plus, c'est vrai que ce n'est pas une structure, en fait. C'est toi, chez toi, devant ton ordinateur. Et ça m'arrive assez souvent qu'on me demande, mais c'est quoi ton vrai métier? Ou qu'on me demande aussi, mais est-ce que tu peux venir m'aider? Alors que, par exemple, à déménager un mercredi à 14h, enfin, des choses comme ça. En fait, non, c'est...
Ouais, c'est ce que dit Pénélope de l'épisode 1, où elle dit, mais en fait, les gens, ils pensent que je travaille pas, mais en fait, je travaille finalement plus que eux. Mais c'est juste que c'est pas le même cadre, c'est pas mettre au boulot dodo, quoi.
Ouais. Et puis c'est aussi parce que dans la création, il y a une partie réflexion. Donc en fait, parfois, et ça, c'est, moi, j'ai du mal à me l'autoriser, en fait, de me dire, parfois, tu vas aller au cinéma pour te servir, tu vas lire un livre pour te servir, tu vas t'asseoir sur un banc et rien faire, juste réfléchir, essayer de mettre ton esprit à zéro pour réfléchir. Et ça, c'est hyper dur de l'assumer et de se sentir légitime que ce que tu fais là, c'est une forme de travail, en fait.
Donc là, t'écris ton livre, c'est super. Enfin, c'est super, je pense pas tous les jours. Il y a des moments, j'imagine, plus difficiles que d'autres. Et tu commences à te dire, bah, tiens, j'aimerais bien gagner un peu d'argent... Donc là, tu retournes à Marseille.
Ouais. En fait, je me disais aussi... oui, il y avait côté argent, parce qu'au bout de 5 mois, à peu près, voilà, il y a quand même... Même si mes parents m'offrent le gîte et le couvert, on a d'autres envies. Et puis, il y a aussi que je trouvais ça hyper isolant et que j'étais quand même à Albi. Et la plupart de... Il y a beaucoup de mes amis qui sont aussi partis. Bon, j'étais un peu seule. Et donc, mon ami de Marseille, qui travaille dans un monoprix, me dit, bah, si tu veux, viens faire fromagère. Donc, je suis partie à faire fromagère. En plus, ça m'allait bien parce que c'était des horaires qui faisaient... soit je travaillais très tôt le matin jusqu'à plutôt début d'après-midi, soit à l'inverse. Donc, en gros, j'avais des plages encore pour écrire. Et en fait, aussi, ça permet de cadrer encore plus parce qu'on écrit dans l'urgence. En plus, comme j'étais à la fin, je me disais, bah, c'est le dernier sprint final. Donc, c'est bien que j'ai pas des journées de 24 heures pour écrire. C'est plus court, donc c'est plus condensé. C'est plus,
intense. Voilà. Et là, quand t'es fromagère, tu discutes avec des clients de Monoprix. D'ailleurs, j'aurais pu être ta cliente ayant vécu à Marseille. Et comment ils réagissent, les gens?
Ben, ce qui est drôle, c'est que je ne dois pas avoir une tête de fromagère à temps plein, parce que souvent les gens me disaient, vous êtes étudiante? Je suis là, ben non, en fait, j'écris un livre. Et donc, en fait, forcément, c'est une histoire assez sympa à raconter. Donc, les gens sont assez... c'est drôle d'avoir une fromagère qui écrit un livre, en fait, je pense. Donc voilà, donc on discute pas mal et puis c'est rigolo parce qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui me donnaient des conseils. Alors il y avait de tout bien sûr, mais il y avait quand même des bons conseils, comme un monsieur qui m'a dit il faut que vous protégiez votre manuscrit une fois que vous l'avez écrit, ce que j'ai fait.
Ça veut dire quoi, protéger son manuscrit?
C'est se l'inscrire à la SACD, d'accord, je crois, dans mon souvenir. D'ailleurs j'ai eu reçu l'autre jour pour me dire que ça expirait, ouais, la protection. Et donc, c'est juste de dire que quand on l'envoie après à des maisons d'édition, il peut rien se passer. Après, j'ai aucun recul sur ça. Je sais pas du tout si c'est utile ou pas. En tout cas, je l'ai fait parce que ça coûte 20 euros, je crois, et que ça n'était pas très engageant. Et donc voilà, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit qu'ils écrivaient eux aussi un livre,
ouais,
et j'en parle souvent parce que je trouve que quand on se met dans une entreprise aussi grande, on est rassuré aussi de se dire que c'est exceptionnel, dans le sens tout le monde ne le fait pas, parce que en fait si tout le monde le fait, ça perd un peu de son énergie qu'on se donne aussi. Et en fait, c'était assez perturbant d'entendre des gens se dire « moi aussi j'écris un livre », alors qu'énormément de personnes écrivent un livre en France.
Ouais. De plus en plus, d'ailleurs, c'est un truc qui me surprend. Mm. C'est maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent « moi, là, j'ai écrit un livre ». Après, c'est génial, mais c'est... Après, des romans, un peu moins, quand même.
Ouais. Mm. Puis, il y a l'intimité, il y a le livre qui reste dans le tiroir. Enfin, moi, pour le coup, il est resté 2 ans dans le tiroir aussi. Parce qu'une fois que je l'ai eu fini, je me suis dit « bah, en fait, trop bizarre. Pendant 5 mois, je dis aux gens « j'ai démissionné pour écrire un livre ». Et maintenant, cette phrase, elle doit changer, puisqu'il est fini.
Ouais.
Et en fait, ils te disent « si tu dis « j'ai écrit un livre », on est déjà plus dans l'action. Donc, on te dit « ok, t'as écrit un livre, mais c'est quoi maintenant ton actualité ?» Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai, qu'est-ce que je fais maintenant?
Qu'est-ce que j'en fais de ce livre?
Ouais, et en fait, c'est hyper flippant parce que tu te dis, il faut l'envoyer à des maisons d'édition. Sauf que ce que je dis aussi, c'est que j'avais réussi à écrire un livre. Et la prochaine étape, c'était l'échec sûrement de l'envoyer à des maisons. Enfin, l'envoyer, j'aurais réussi, mais en
l'échec
tout cas,
possible.
L'échec possible. Et donc, c'était assez frustrant de se dire. Que quand je disais que j'écrivais un livre, tout le monde était hyper enthousiaste et tout, et que j'allais passer à l'étape où en gros j'allais dire bah, je l'ai envoyé, mais j'ai aucun retour et en fait il sera jamais publié. Et c'était un peu dur quoi, c'était dur d'affronter ça. Et donc j'avais peur du refus, clairement, donc peur de l'échec comme tout le monde, et donc j'étais un peu dans une période je fais rien et c'était naze, mais voilà ce que j'ai fait.
C'est comme ça que et donc là donc tu dis je le laisse dans un tiroir.
Je laisse dans un tiroir.
Tu l'as fait lire à des personnes?
Je l'ai fait lire, alors ça aussi c'est assez frustrant parce que quand on le fait lire à ses proches, s'ils nous disent que c'est bien, on se dit bah ouais mais bon c'est nos proches, donc ils ont trouvé ça bien, c'est normal, ils sont gentils. Et si on le fait lire et qu'ils nous disent rien, parce qu'il y a des gens aussi que c'est pas facile de lire sur un ordinateur, c'est pas facile de lire un livre en entier pour plein de gens, c'est pas facile de lire sur des feuilles volantes, donc il y a plein de gens qui ont un peu perdu le courage. Et puis c'est vrai que ça reste un livre, c'est abstrait, tu vois, c'est pas un livre avec une couverture et tout, donc beaucoup de gens se disent oui bon ok je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire, et puis je pense qu'il y a des gens qui le lisent pas. Et donc c'est dur de se dire oui c'est vraiment bien et ça vaut le coup, donc moi je suis plutôt peut-être sur le coup voir le verre à moitié vide, tu vois, et donc je me suis dit il est pas si bien que ça ce livre.
Ouais.
Et donc
on le met dans un tiroir.
Oui, parce qu'il y a aussi, enfin c'est trop bête, mais l'envoyer à des maisons d'édition c'est aussi une démarche, parce qu'en fait il faut il faut l'imprimer, mine de rien, ça coûte vite de l'argent aussi. Il faut le mettre dans une enveloppe, mettre le poster, donc ça aussi de l'argent, faire une lettre de motivation. Alors ça c'est du temps où je te dis pourquoi mon livre irait dans cette maison d'édition plutôt qu'une autre. Franchement moi j'étais pas une experte et je n'avais aucune idée, donc je savais, enfin franchement moi en tant que lectrice avant je ne faisais pas attention aux maisons d'édition, alors que c'est vachement important, parce que certaines maisons d'édition, elles ont des livres qui sont totalement différents d'autres, et puis on sait que...
Oui, il y a une espèce de ligne éditoriale, j'imagine.
Ouais, et puis même une qualité qui peut être différente entre certaines maisons d'édition. Et donc...
Ouais, c'est fou. En fait, finalement, il y a des gens qui te diront écrire un livre, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de l'envoyer à des maisons d'édition, mais c'est... Enfin, après, c'est chacun qui le vit.
Ouais, mais après, franchement, c'est un peu de l'acheter, tu vois. Enfin, clairement, fuir l'échec, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, tant que je m'étais dit, l'objectif, c'est d'écrire un livre, parce qu'en fait, c'était ça, mon objectif tout le long, c'était écrire un livre. Et c'était pas être publié. Donc, je m'étais pas confrontée à quelque chose qui n'était pas... Enfin, je veux dire... L'envoyer des maisons d'édition, on ne maîtrise pas.
Ouais.
Ça veut dire que ça va arriver et puis la décision, c'est pas la nôtre. Mais réussir à écrire un livre et aller au bout, c'est notre propre décision.
Ouais.
Donc je m'étais dit, parce que moi, je voulais aussi écrire un livre parce que je me disais, t'as jamais rien fait de A à Z dans ta vie. C'était aussi ça, en fait, quand j'ai démissionné, parce que j'avais l'impression, ok, mon travail, déjà, il est pas hyper valorisant. Je trouve que je m'ennuie, que c'est pas cérébral. Puis c'était aussi, il y avait beaucoup de... Quand je dis que ça me fait fière, c'est que c'était acheter des produits en Chine, les revendre plus cher. Enfin, c'est pas ce qui m'intéressait, et encore moins aujourd'hui. Et donc, je me disais, qu'est-ce qui te rendrait fière, mais aussi de quoi tu serais fière dans le sens intérieur de réussir de A à Z quelque chose. Et ce que je dis souvent, c'est que dans notre vie, on fait beaucoup de petite partie de choses. Par exemple, en école, on fait la présentation sur un sujet, mais on fait que le grand A, petit 1, petit B. Et puis ton copain, il va prendre la suite à l'oral devant le tableau, enfin tout ça. Puis on fait des stages de 6 mois dans une entreprise, donc on fait que passer. On fait des semestres en Erasmus, pareil, on fait que passer. Et qu'est-ce que je fais seule, moi, sans l'aide de personne? Il y avait un peu d'ego aussi, et puis de se mettre face à soi-même. Et en fait, il y avait rien. Et j'étais là, s'il le faut, je ne sais pas faire quelque chose en entier. Et pour moi, un livre, c'était vraiment me confronter à moi-même, tu vois, d'aller au bout des choses et de demander de l'aide à personne, enfin. Si, un petit peu, mais pas tant que ça, en fait.
Et dans ton entourage, il n'y a personne qui t'a dit « Mais t'es folle, ton livre, il est écrit, tu le laisses dans le tiroir ?»
J'ai pas un souvenir... J'ai pas trop de souvenirs de ça, parce qu'en fait, après, la vie s'est vite enchaînée. Je me suis dit « Bah, il faut que je retrouve un travail. » Du coup, je reviens en marketing. Et puis, la vie... Enfin, j'avais fait prof, parce que je m'étais dit « J'aime pas travailler en entreprise, en fait. » Donc, j'ai fait prof d'anglais parce que comme j'étais partie en Angleterre, j'avais parlé anglais et c'était trop bien, mais pareil, c'était pas très bien payé parce que j'étais vacataire. Et je me dis, en fait, cette vie, elle peut pas durer indéfiniment d'être ce genre de saltimbanque. Et donc, il fallait que je gagne de l'argent et donc, je trouve un emploi et puis après, on est passé à autre chose et puis le sujet livre n'était plus... Pas trop, je crois.
J'écrivais plus, je crois.
Non. Enfin, peut-être que si, mais j'en sais rien. C'est vraiment une période un peu... Non, parce que j'étais hyper investie dans le travail que j'avais commencé. Je me disais, moi, justement, j'avais commencé en CDD. Là, je veux un CDI. Enfin, ouais. Bizarrement.
Ouais, la stabilité.
Ouais, après, t'es obligé parce que CDD, ça s'arrête. Et si ça s'arrête, ça veut dire qu'il faut aller ailleurs aussi. Donc, c'était plus de se dire, bah, je veux quand même continuer de travailler. Mm. Donc voilà. Donc, en fait, j'étais dans d'autres objectifs. Et l'objectif livre, il était vraiment... mis de côté.
Voilà.
Et en fait dans cette entreprise ça s'est pas hyper bien passé pour d'autres raisons, parce qu'il y avait un changement de managérial et que c'est quand même des drôles de personnes.
T'avais eu ton CDI?
J'avais eu mon CDI, alors j'ai eu CDD, deuxième CDD, période d'essai CDI et CDI. Et après, on m'a fait comprendre qu'on voulait plus de moi.
Donc c'est super difficile.
C'était très dur parce que on se dit parce qu'en plus c'est pas fait de la bonne façon, parce que c'est pas genre on veut plus de vous, on va faire une rupture, merci, au revoir. C'était genre non, on veut la faire craquer et que comme ça elle quitte son boulot et puis on a rien à payer et puis tout ça. Donc c'était vraiment dur parce que c'était vraiment c'est la cour d'école. Enfin. Et donc, en fait, ça s'est arrêté. Et puis, il y avait aussi que mon copain vivait à Lille. Et je me suis dit, c'est l'occasion de se retrouver. Oui, parce que
finalement, t'as réussi à faire en sorte que...
Rupture.
Ouais.
Là, attends, c'était... La première fois, j'assume le fait de vouloir écrire un livre. Mais là, c'est leur problème. Mm-hmm. En fait, c'est eux qui... Enfin, je veux dire, c'est pas correct. Puis...
Mais là, du coup, émotionnellement, tu t'en vas. Cette fois-ci, t'as le chômage, mais par contre, émotionnellement, t'es quand même
hyper... Ah oui, mais moi, j'en pleurais encore il n'y a pas très longtemps, chaque fois que j'en parlais. Et puis, je me disais, en fait, je suis nulle. Je trouve d'être virée d'une entreprise, parce qu'en fait, on peut dire que c'est une rupture, mais bon, en gros, j'étais virée, quoi. C'est hyper dur. J'avais pas une expérience folle. J'avais fait 2 ans dans un nouvel ops où, en gros, je savais pas ce que je valais parce que je trouvais que c'était, voilà. Puis après, j'avais fait un peu prof d'anglais, j'ai écrit un livre, j'ai fait fromagère à Monoprix, chez Monoprix. Qu'est-ce que je vaux? Moi, ce que je me dis souvent, je sais pas travailler, tu vois. Donc, en termes de confiance, c'est quand même le fond du fond. Et donc voilà, et puis j'ai ma rupture et je me dis c'est un nouveau départ aussi. Ça faisait longtemps que j'étais avec mon copain et je me disais c'est aussi l'occasion de se rassembler. Et donc je suis allée à Lille et c'est là qu'il m'a dit, et là je me suis dit démunie, je fais plus rien de ma vie, mais
j'ai
plus d'objectifs parce que j'étais dégoûtée de l'entreprise et puis j'avais plus de rêves, je les avais tous balayé ou fait ou je sais pas, bon bref.
Et puis t'étais peut-être dans un état d'esprit où en fait finalement t'avais plus confiance en toi et puis finalement t'avais juste besoin de te reconstruire suite à ça.
Déjà je suis pas une personne qui a énormément confiance en elle et en plus là c'est vrai qu'on était au plus bas du bas et donc voilà et donc lui, mon copain Marie maintenant, m'a dit quitte à être là à rien faire entre guillemets puisque tu sais pas ce que tu veux faire, pourquoi tu ressors pas ce livre? Il m'en parlait pas mal quand même, hein. Il me disait mais ressors ce livre du tiroir et envoie-le. Et donc, il me dit, mets-le en auto-édition sur Amazon, parce que c'est vrai qu'il y a ça. Et donc, j'ai travaillé ce texte, je l'ai mis en page, j'ai créé une couverture, et puis je l'ai mis sur Amazon comme ça, sans réfléchir. Et,
sachant que là, du coup, ça n'engage entre guillemets à rien, juste à mettre en ligne le manuscrit.
Ouais, voilà.
Et après, s'il y a des gens qui l'achètent, il est imprimé par Amazon.
C'est ça. Mmh. Alors, il y a la version numérique et puis la version papier. Et en fait, ça coûte rien. Donc, c'est eux qui engagent les frais. Il faut savoir aussi, parce qu'il y a beaucoup de manières de publier, mais en avançant de l'argent. Et moi, c'était pas possible parce que je n'avais pas. Et donc voilà, et en fait, je poste mon livre comme
le
ça.
Le 15 août
Ouais, 15 ou le 16, je sais plus, mais en tout cas, effectivement, c'était sans réfléchir. Mais j'ai fait beaucoup de choses sans réfléchir sur ça. Enfin, j'ai réfléchi au titre, j'ai réfléchi à la couverture, mais après, j'ai pas réfléchi à une stratégie, tu vois. Je me suis juste dit que mon objectif, c'était que ce soit lu. Donc, je l'ai mis à 2,99 en numérique. Et après, je l'avais mis... il y a des mécanismes quand même à régler parce qu'il y a un coût de production pour Amazon. Donc, on peut pas le mettre à 2 euros le papier, effectivement. Ouais. Et donc, j'ai mis un prix... comme on apprend à l'école, 9,90, tu vois. Et voilà. Et après, ben, premier commentaire. Donc ça, c'était fou. Et c'est vraiment ça la plus grande émotion, parce que souvent, quand je raconte mon histoire, on dit, mais t'as pas l'air contente. Je fais, mais si, mais en fait, c'est vraiment un processus long. J'ai commencé à écrire il y a longtemps. Je l'ai écrit. Après, je l'ai mis dans un tiroir. Après, je l'ai mis sur Amazon. J'ai eu le premier commentaire. J'ai eu le premier achat, enfin je veux dire, tout ça est un long processus en fait, et on oublie souvent, quand on regarde le succès entre guillemets des autres personnes, que tout ne s'est pas fait un jour du tout, tu vois.
Et la personne, le premier commentaire, c'est une personne que tu ne connais pas?
Non, ouais.
Et tu sais qui c'est?
Non, je sais pas qui c'est. Mais c'est ça aussi que je dis souvent, c'est que le facteur chance, il est indéniable dans toutes les choses que l'on fait. C'est que cette personne l'a lu, il a aimé, il a mis 5 étoiles. C'est-à-dire que j'ai pas que des 5 étoiles. J'ai parfois une étoile sur Amazon et ça aurait été la première lecteur. Ben, je pense que ça aurait été presque terminé, en fait, tu vois. Donc, ça se joue à rien. Et donc voilà, cette personne a aimé, d'autres personnes ont aimé. Et en fait, j'avais mis mon livre aussi en lecture gratuite pour les
abonnés Kindle.
Ouais, voilà. Et donc, ça aussi, c'est une bonne stratégie parce que bah, tous les gens qui... Enfin, ils s'en fichent de pas payer ce livre, de commencer la lecture de ce livre, et puis ils verront si ça leur plaît. Et moi, j'avais les stats aussi, donc je voyais que les gens qui commençaient mon livre le finissaient, donc ça, c'est quand même...
C'est super, c'est chouette. Voilà.
Et puis, du coup, ces gens, ils peuvent mettre des commentaires.
D'accord.
Alors qu'ils n'ont rien acheté. Et donc,
ils ont juste payé un abonnement qui leur donne accès à une bibliothèque de livres.
Donc là, bah, des commentaires et puis...
Tu réagis comment au premier commentaire? Tu fais une danse de la joie?
Ouais,
tu appelles toute ta famille?
Non, mais j'étais en vacances avec des amis et je me souviens, j'étais là, j'avais vu premier commentaire et je l'ai 5 étoiles. Et donc j'étais là, bah, ouais, t'es trop content. Enfin, tu te dis que peut-être il est bien. Parce que jusque-là, tu te dis tout le temps, bah non, c'est ta mère qui a dit qu'il était bien. D'ailleurs, ma mère n'a pas dit qu'il était bien, mais bon, bref.
Elle a dit quoi, ta mère?
Ma mère, elle m'avait dit... Enfin, on n'est pas très expressifs dans la famille, donc déjà, elle m'avait dit que oui, c'était sympa. Et elle m'avait dit aussi que si je voulais... Pourquoi je ne le proposais pas en littérature jeunesse? Alors que c'est pas du tout ce que j'ai écrit, tu vois. Et je me souviens, enfin, je sais pas si elle va écouter, mais elle sera hyper, elle va dire, mais non, j'ai jamais dit ça. mais en fait, ça m'avait hyper perturbée aussi en me disant, bah, je sais plus ce que j'ai fait. Est-ce que...
Ouais, j'ai pas écrit pour cette cible-là.
Non, et puis, il y a aussi un mec qui m'a dit une fois, parce que tout le monde te dit, je connais quelqu'un. Et donc, il m'avait dit, fais-le-moi lire, je connais quelqu'un, je fais passer tout. Et il m'avait dit, mais en fait, ton livre, il est hyper court, c'est même pas un livre, c'est une nouvelle. Et en fait, t'es dans un état de vulnérabilité quand ça te concerne et tes projets, que tu es prêt à douter de ça. Et donc, je me souviens, je me dis, oh, mais en fait, j'ai pas écrit un livre, il est trop court. Alors que si, tu vois, il fait...
Et puis, quand bien même, en fait.
Mais en fait, non, parce que t'es trop vulnérable et qu'en fait, tu te sens... C'est tellement cœur ouvert, enfin je veux dire, tellement ta propre, pour du coup ce que je disais, c'est du A à Z, effectivement c'est du A à Z, donc tu peux pas dire oui mais en fait c'est pas ma partie qui est pas bonne, c'est la partie de Jean-Michel qui travaille avec moi, donc là c'est toi à 100%, donc t'es là, bah tu te dis bah ok, en fait ouais, peut-être qu'il est trop court, peut-être qu'il est mal écrit, enfin tout ça c'est toi quoi. Donc voilà, donc bref, et donc on était aux commentaires sur Amazon et donc voilà, et après les ventes elles ont plutôt pris, c'est-à-dire que il y a tellement de livres sur Amazon que même si on en vend 10 par jour, c'est énorme en fait.
Donc, ouais, c'est un succès.
Ouais, voilà. Ouais, j'ai une première maison d'édition qui m'a contactée, c'est une petite maison d'édition, mais bon, pas de problème et tout, et qui m'avait contactée. Et c'est trop bizarre parce que je dis souvent que j'ai pas confiance en moi, mais je me suis dit ce jour-là, attends. Et je sais pas pourquoi.
T'as écouté ta petite voix,
parce que finalement, c'était trop bien. C'était une petite maison d'édition, mais il y a aucun souci avec les petites maisons d'édition, et puis voilà, donc mais je sais pas pourquoi je me suis dit bah attends un peu, attends, bon bref, et en fait j'ai eu une deuxième maison d'édition qui m'a contactée, qui était une maison d'entreprise, bref. Et donc, pardon. Mais c'était un peu long le processus. Elle me disait, oui, j'ai commencé à lire votre livre, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'hésitais un petit peu. J'hésitais pas, j'étais à fond, mais je me disais, bah, pourquoi ça va plus vite? Donc, je la relançais un petit peu. Mais j'ai dit, ah, peut-être que si elle me dit pas plus, c'est que c'est pas si bien. Donc, moi, je suis hyper polie. C'est un gros problème. Je suis trop polie. Je suis trop. Je suis pas du tout culottée. Et donc, ça m'énerve. Bon, voilà. Et donc, je me disais, bon, ben, on va pas faire de bruit. Tant pis, elle me réécrit pas. Enfin, tant pis. Je la relance, mais je vais pas la relancer indéfiniment. J'ai quand même.
Je veux pas la déranger.
Ouais, je vais pas la déranger. Et puis, même, je vais pas non plus, c'est pas si c'est de l'ego, mais tu vas pas te traîner par terre à un moment donné si la personne ne veut pas te contacter, bon voilà. Et donc là, par contre, effectivement, il y a Amazon qui m'a proposé une promo. Donc moi, j'étais là, j'étais un peu à bout de souffle aussi parce que c'était baissé le prix de mon livre, donc il y a pas de souci parce que c'est vrai que c'était pas l'objectif de se faire de l'argent, mais tu dis bon quand même, à un moment donné, c'est toujours à toi de faire l'effort. Tu vois, c'est toi qui subis la promotion entre guillemets. Donc j'avais dit jusqu'au dernier moment j'avais pas répondu à ce mail et puis le dernier jour du mail où il m'avait dit répondez avant tel jour, je m'étais dit bon allez tu dis oui parce que de toute façon c'est ta stratégie de dire oui à tout.
Parce que t'avais dit non maison d'édition.
Oui, ouais. J'avais rien dit, j'avais pas dit non. D'accord. J'avais dit ok on se tient au courant.
Ok.
Et donc tout ça c'est un laps de temps assez court quand même, on n'est pas sur des mois et des mois. Et donc là j'avais dit à Amazon ok pour la promotion et là il m'avait répondu bon ben on vous tiendra au courant si c'est bon pour nous. Je suis, ah bon d'accord, j'ai même pas.
Merci les gars.
Jusqu'au bout c'est même pas moi qui décide en fait. Et en fait, ils m'ont même pas tenu au courant et un jour je me lève parce que je regardais quand même mes ventes tous les jours, tous les matins. Je regardais et là je me souviens c'était un dimanche genre à 9h je regarde mes ventes et je vois que j'en avais vendu 200 à 9h tu vois, alors ce qui est beaucoup et donc je me suis dit ah, mais ça doit être la promotion et en fait tout le long de la journée j'en ai vendu beaucoup et je suis passée dans le top vente à Amazon et je suis même passée première et je me souviens à l'époque c'était Leïla Slimani qui était Goncourt qui s'est très bien vendu et j'étais bon après j'étais avec mon livre à 0,99 en numérique il hein, y a pas de non plus j'ai pas détourné le concours mais j'aimais bien enfin ça me faisait rire de me dire bah t'es là
c'est une super marque de reconnaissance c'est super ouais
et donc et c'est suite à ça qu'une troisième maison d'édition m'a contactée celle avec qui j'ai signé
qui est Albin Michel
voilà et donc
là tu publies ton livre puis en auto tu l'enlèves du coup de l'auto publication
le contrat d'une maison d'édition c'est, enfin après ça se négocie et tout mais bon moi j'étais là oui c'est tout ce que vous voulez encore une fois d'accord et donc ils m'ont dit bon on enlève votre version après quoi qu'il arrive on a la version après c'est de savoir à quel point t'as des droits sur le numérique ou pas bon bref et donc je signe avec eux et puis c'est parti
c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre.
Ouais, mais pareil, ça s'est fait progressivement, tu vois, on est sur une petite maison d'édition, une deuxième maison d'édition, puis une grande maison d'édition, enfin, et du coup, bien sûr, c'est-à-dire que tu te dis, au moment où je démissionne, on te dit que c'est ça le point final, tu te dis, mais trop cool la vie, mais génial, mais c'est incroyable et tout. Après, ça se fait progressivement, donc tu passes des étapes, et donc, t'arrives là, mature, avec ton petit escalier que t'as monté, et voilà.
Et donc là, tu le publies, il est en kiosque, non, en librairie.
Ouais, c'est ça. Il est en librairie. Après, bon, moi, j'ai été, une fois de plus, assez polie, puis tu as la pression aussi des autres, parce que, en fait, la couverture qu'on m'a proposée, elle me plaît pas du tout, de mon livre. Et c'est vrai qu'on croit souvent que c'est les auteurs qui décident, mais pas du tout, c'est eux qui décident de la couverture et on te propose. Après, tu peux dire non, mais c'est vrai que moi, on me proposait toujours un peu la même chose et puis je disais non. Et puis en fait, on changeait la couleur de la robe ou je sais pas. Bon, bref, c'était des détails. Et puis au bout d'un moment, il y a les gens autour de toi qui disent mais Sophie, c'est quand même Albin Michel, ils doivent savoir ce qu'ils font. Et toi, t'es là, bah oui, pardon, excusez-moi. Donc j'ai dit oui à une couverture qui me plaisait pas du tout. Et donc voilà. Mais bon, après, mon livre était effectivement en librairie, sauf que j'étais pas. Je suis là, mais en fait, la couverture, c'est pas exactement.
Ouais, ça a forcément un impact parce que t'étais pas encore un auteur connu.
Après, il y a peut-être des gens qui ont aimé cette couverture, il n'y a pas de souci, mais moi, ça ne me correspondait pas. Donc après, pour le vendre, le revendiquer, en fait, la première phrase que je disais aux gens, c'était la couverture, c'est pas ce que vous croyez. Et forcément, ça. C'est...
Parce que la couverture, elle peut faire un peu. Enfin, la première couverture avant qu'il sorte en poche, ça pouvait faire un peu eau de rose. Ouais.
En fait, l'histoire d'amour, il y en a une, mais c'est pas du tout le sujet central. Mmh. Et là, on était sur un truc assez dégoulinant.
Ça dégouline d'amour, ouais. C'est beau, mais c'est insupportable.
Ouais, c'est ça, c'est très insupportable. Donc voilà, mais. Mais bon, voilà, donc l'aventure a commencé.
Donc il a été publié, traduit.
Traduit, alors ça aussi trop bien. En italien. Ouais. Donc publié en Italie et puis après Après, voilà, y a la version poche qui sort. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
Parce que ça, c'était en avril dernier, la
voilà.
version poche.
En fait, ça sort toujours plus ou moins au bout d'un an de vie du livre.
Ok.
C'est re-signé avec une maison d'édition, donc ça, c'est sympa aussi. Parce que c'est pas automatique, tous les livres en grand format ne sortent pas en poche. Donc c'est aussi...
Ça montre que ça se vend.
Ouais, voilà, c'est valorisant. Mmh. Et puis, poche, c'est quand même... dans l'esprit, c'est beaucoup de choses. C'est quand même la démocratisation de la littérature dans les années 60, je crois. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi, parce que, c'est quand même devenir accessible à tout le monde aussi. Et puis... Et puis la couverture a changé. Donc voilà.
Donc là, c'est publié, et là, tu dis, je vais enchaîner avec un deuxième roman. Comment tu vis les choses?
Alors, à partir du moment où je suis publiée, je me dis, je vais écrire un autre roman et tout, donc t'es motivée, t'as une éditrice, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper difficile. J'étais enceinte, mais après, c'est pas...
De ton premier enfant?
De mon premier enfant. Mmh.
Sachant que tu viens d'accoucher du deuxième il y a 2 mois.
Même pas un mois.
Un mois, oui.
Ouais. Et après, j'ai trouvé ça hyper dur. Mais parce que souvent aussi, je dis, j'ai eu la chance de pas échouer, en fait. La chance ou pas, d'ailleurs, justement. Parce que dans la vie, on échoue. Et du coup, c'est important de se dire que c'est possible d'échouer et de réussir après. Moi, j'avais réussi au premier coup. Et je me disais, c'est peut-être un coup de chance. C'est peut-être... plein de choses, tu vois, moi je suis très tout ça, mais je me dis, est-ce que je suis capable d'en écrire 2? Peut-être pas, alors que si j'en avais peut-être écrit 3 qui avaient été refusés avant d'en écrire 1, je me dis, en tout cas, tu sais écrire un livre, tu vois. Donc je me disais, est-ce que je sais écrire vraiment un livre? Est-ce que c'est pas une coup de chance? Comment j'ai réussi à faire ça? Donc beaucoup de doutes. Je pense qu'aussi un enfant, ça perturbe un petit peu sa vie. J'ai trouvé, c'est pas un podcast sur la maternité, mais j'ai trouvé ça assez révolutionnaire d'avoir un enfant, et pas que dans le bon sens du terme aussi, il y a beaucoup de doutes et tout, donc beaucoup de réflexions, tout ça. Et puis je vivais à Lille par amour, mais j'étais pas très très heureuse à Lille, c'est comme ça, toutes les plantes ne poussent pas partout, et donc ça m'a paru très difficile d'écrire mon deuxième livre. Donc d'ailleurs, j'en ai écrit un qui était pas, enfin, que j'ai pas trouvé bon. Puis j'en ai écrit un deuxième, je trouve pas terrible non plus. Bref, c'est hyper dur d'y arriver, en fait. Donc ça a mis du temps.
Et celui qui va être publié là bientôt?
Oui, j'ai réussi quand même.
C'est le quatrième livre ou les deux autres, tu les as un peu...
Ouais, ils sont mis de côté. Après, j'ai des brouillons. Enfin, tu vois, j'ai quand même pas toujours commencé et fini. Tu vois, c'est pas la réalité de faire ça. Enfin, peut-être que si, tout le monde fait ça. Et donc là, oui, j'ai quand même réussi. Après, on a déménagé aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que je me sens mieux dans ma vie. Pour moi, c'est important. Je suis pas ce genre de personne qui va écrire au bord de la dépression parce que quelqu'un m'a quitté et que j'ai une maladie incurable. Tu vois, il faut que je sois heureuse pour écrire. Et donc là, j'ai écrit mon second, on va dire, qui va être publié. Donc, mais après, tu vois, en fait, ce que je me dis, c'est que mon troisième, je vais me dire, mais en fait, tu sais écrire 2 livres. Est-ce que tu sais écrire 3 livres? Ouais. Tu vois,
Je sais pas, je suis pas du tout écrivain et j'ai pas d'écrivain dans mon entourage. Mmh. C'est quelque chose qui arrive fréquemment d'en mettre dans les tiroirs.
J'en ai aucune idée. Mmh. Je sais qu'il y a des gens qui ne doivent pas en mettre dans les tiroirs parce que d'en publier un par an, il faut quand même faut y aller, quoi, tu vois. Enfin, déjà, si tu fais que ça ou pas, parce que vivre de l'écriture, c'est quand même compliqué. Souvent, il y a des missions à côté ou même un boulot à côté.
Et donc, toi, d'ailleurs, tu vis de tes livres ou...
Je sais pas comment on peut dire ça. Maintenant, nous, je fais autre chose. J'écris à côté parce que c'est compliqué. Et puis, pour le coup, je pense qu'il faut en sortir un par an, ou alors il faut qu'il soit traduit en pleine langue, au cinéma, enfin, plein de choses, tu vois. Mais faut faire autre chose à côté. Mais ça, c'est pas un problème. Enfin,
ça te plaît.
Ça me plaît, ouais. Donc voilà. Et je sais plus ce que je disais.
Donc il va sortir.
Je suis très comme ça. Ouais. Je pars dans tous les sens. Et donc il va sortir 1er avril.
D'accord.
Voilà.
Donc, t'as le titre ou pas encore?
Oui, j'ai le titre, mais je l'ai pas encore. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va sortir le podcast.
D'accord. Bon, on le mettra sur quand il sortira. Le premier, enfin, en tout cas, je le mettrai sur le site du podcast. Il s'appelle Le Pacte d'Avril.
C'est
que je recommande très, très vivement parce que il est plein de fraîcheur et, enfin, en tout cas, j'ai adoré le lire à sa sortie en poche.
Merci.
Et l'écriture du deuxième livre, et même, enfin, des 2, 3, 4, comment tu les as vécues? J'imagine que tous les jours n'ont pas dû être faciles.
Non, c'est jamais facile non plus. Il y a des jours de doute. Il y a des jours aussi. En fait, moi, j'écris en ayant une idée. mais pas la fin. Donc déjà, ça aussi, c'est très stressant parfois. Je me dis, mais Sophie, par où tu vas? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu as fait ça? Mais en même temps, je ne sais pas faire autrement parce que je suis quelqu'un de pas très organisé en général. Et donc, souvent, je dis, bah, c'est possible de pas être organisé et d'écrire. Et donc, voilà, après, il y a une rigueur. Ça, c'est indéniable qu'il faut de la rigueur. Et donc je me suis j'ai fait un peu de la même façon en étant le matin tu te lèves, t'écris et puis tu relis ce que t'as fait la veille pour un peu partir dans la bonne direction et puis voilà.
Il y a encore eu des phases de doute ?
Bah oui, parce qu'en fait moi, une des qualités que j'aime beaucoup chez les gens, c'est la persévérance, et je me trouve pas persévérante. Et en fait, j'ai dit à mon mari, si j'arrive à écrire mon deuxième livre, enfin le publier en tout cas, enfin qu'il soit bon pour être publié, je pourrais être contente de moi parce que j'aurais fait preuve de persévérance, parce qu'en fait, t'en écris un que tu trouves pas bon, deux que tu trouves pas bon, qui sont pas terribles effectivement, tu te dis mais en fait. Comment je vais avoir les ressources de retenter une troisième fois, tu vois. Et franchement, c'était hyper dur.
Et lui, comment il réagissait quand il disait ça?
Bah, il disait, mais s'il le faut, ils sont bons, tes livres. C'est peu compréhensible, en fait. C'est quand même avec le plus grand soutien, parce qu'il me soutient à 100%.
Parce que lui, il est entrepreneur.
Ouais, ça doit aider quand même.
Donc, il a l'âme de...
De créer, de en créer, fait. Ouais. Franchement, écrire un livre, c'est une forme d'entreprise comme une autre... c'est une micro-entreprise. Ouais. Et donc il comprend aussi, parce qu'en fait lui aussi quand au tout début c'était les mêmes galères, en fait il y a des gens qui croyaient pas en lui, il y a des gens qui, enfin c'est voilà, en fait on voit toujours le point final, mais la première phrase elle est toujours compliquée en fait.
Ouais. Du coup, c'est quand même enfin, j'imagine, vous pouvez vous entraider parce qu'il y a des gens qui comprennent pas du tout l'univers de l'autre. Oui. Et...
Mais je trouve ça parfait, en fait, parce que je pense que ça m'embêterait qu'il soit aussi écrivain parce que ce serait trop proche, en fait. Ouais. Et en même temps, il est un peu un pied dans le milieu dans le sens où il crée, il a les mêmes problématiques que moi. Parfois, le soir, il rentre, il est dépité. Et moi, parfois, le soir, c'est moi qui suis dépité de ma journée. Je dis, bah, en fait, ce que j'ai pas écrit ou j'ai peu écrit ou ce que j'ai écrit, c'est nul. C'est horrible, en fait. T'as des journées où tu te regardes et tu dis en fait j'ai à l'échelle de moi-même j'ai rien fait, alors que quand tu es dans une entreprise parfois tu fais pas grand chose, mais c'est pas pareil parce que c'est pas pareil, alors que là tu es face à toi-même, tu es ton propre boss et
donc il y a chacun qui fait le coach de
ouais,
l'autre,
donc on s'arrange pour avoir un peu non ce soir c'est moi ouais. Ouais, mais du coup on soutient et puis on se comprend.
Ouais. Ouais, ce qui est essentiel pour soutenir l'autre, c'est de comprendre par là où il passe et ouais. Pour trouver les mots justes.
Ouais. Bon, après, ça reste... on est quand même très seul. Enfin,
ouais.
Comme dans la vie. Je vais plomber l'ambiance. Mais... Et donc, j'ai réussi. Donc, cool. Et donc, il sort le 1er avril. Et puis...
Aux éditions... aux éditions Flammarion,
ouais,
cette fois-ci.
Ouais, c'est ça. Flammarion. Une éditrice que j'aime beaucoup. Parce que c'est très important aussi. C'est vrai qu'avec le recul, au début, quand on choisit une maison d'édition, on le choisit... Enfin, moi, j'avais choisi un peu en me disant, il croit en moi, puis c'est tout, quoi. En fait, il y a beaucoup de paramètres. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en fait, je suis une jeune auteure, et donc j'ai besoin d'un vrai coach, de quelqu'un qui croit en moi, qui se dise qu'un jour je vais sortir le livre incroyable et qui va me pousser dans tout ça. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et je discutais avec d'autres auteurs où les problématiques sont pas les mêmes parce que ils sont beaucoup plus sûrs d'eux. Ils sont pas dans cette phase de leur vie en doute. En fait, ils savent écrire. Et donc voilà, moi je sais encore, même là je me dis, est-ce que je sais écrire? Donc moi j'ai juste besoin de quelqu'un qui me tient à bout de bras et qui me dit, mais si tu sais écrire, tu vas l'écrire, et ça va aller qu'en progressant et de mieux en mieux.
Et t'as d'autres passions, notamment les dessins? Tu fais des petits dessins sur Instagram?
Ouais. Bon, après ça reste très modeste, mais en fait je rêverais de faire une BD. Mais même si je fais une BD, c'est pas moi qui déciderai, mais je pense. Mais donc j'aime beaucoup le dessin, c'est un art. Tu sais, parfois quand on te dit si tu devais avoir un talent n'importe lequel, ce serait de chanter. Ça. Moi, ce serait de dessiner. J'adorerais savoir dessiner. Et donc je m'étais dansée parce que j'aime beaucoup les personnages en général. Moi, ce que j'aime le plus dans un livre, c'est développer le personnage. Et donc je m'étais dit je vais créer des petits personnages en créant des points. Des traits de personnalité un peu atypiques, parce que c'est vrai que je me souviens, ça m'était venu à l'idée parce que ma mère, elle me disait, je déteste les montres arrêtées. Et je suis là, mais c'est trop drôle de dire ça. C'est trop bizarre. En fait, on est tellement tous uniques dans ce qu'on est et on se rend pas forcément compte. Et puis, c'est ce qui fait un personnage. Et donc, je m'étais lancée dans ça, à dessiner des petites personnes et à écrire des points sur eux. Genre, moi, ce que je fais aussi, c'est que souvent, quand je me balade à la rue, je compte les nombres d'étages qu'il y a dans les immeubles. Et en fait, on fait tous des trucs un peu bizarres qui sont hyper... pour nous, c'est rien, mais pour les autres, c'est hyper sympa. Et donc, c'était des personnages comme ça que j'ai créés. Et puis après, ça me donnait l'idée aussi dans mes personnages, en fait, pour mes livres.
Donc, c'est le si on veut suivre le compte Insta, c'est Olé Petit Portrait.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une activité folle. Hein.
Non, mais c'est un petit side project.
Oui, ça fait partie de moi. Hein.
Ouais, c'est ça. Mm. Et dans ton choix de vie, il y a eu des renoncements, j'imagine. Parce que qui dit choix dit renoncement. Ouais. Quels ont été les tiens?
Par exemple, quand j'ai démissionné, j'avais l'impression que, en fait, c'était très dur de renoncer à la voie toute tracée en me disant, voilà, toute, il y a un, souvent je fais ce parallèle avec un courant marin dans lequel on est. J'en parle souvent, comme dans Nemo où on est dans le courant, les tortues qui sortent pas. Et moi, je trouve vraiment que c'était ça parce qu'en fait, une école de commerce, on nous fait des promesses et donc de sortir du courant pour moi, c'était renoncer à cette promesse-là. Et puis c'est vrai que j'avais très peur du l'ARH qui te dit un jour, ok, quelle est la cohérence de votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait, et de se dire, en fait, non, j'ai un gros trou parce que j'ai écrit un livre, ça me stressait. Donc il y a eu ce renoncement aussi. Alors aujourd'hui je le vis beaucoup moins comme un renoncement. Sur le moment j'étais là, mais en fait je suis en train de tirer un trait sur mes études, sur le marketing, parce qu'en fait dès que tu sors t'es plus dans le coup, quoi. Et en fait aujourd'hui ça me paraît fou, parce que ce que je trouvais trop bien à la sortie de l'école, c'était d'être dans une grande marque. Par exemple, je me souviens, je travaillais en stage chez Schweppes et je trouve ça trop bien. Et aujourd'hui je trouve ça pas du tout trop bien. Je trouve ça nul de faire, enfin pas nul, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas c'est
les
pas
rêves changent.
Voilà, les rêves changent. C'est pas un accord avec moi aussi de contribuer à la consommation, alors que pour moi c'était genre, j'étais dans l'équipe Schweppes de France, enfin tu vois ce côté basket, tu vois un peu. Et aujourd'hui c'est plus du tout ça. En plus, je serais plus dans justement après j'aime bien le commerce et tout, je trouve ça sympa, mais pas dans la consommation, parce que j'ai changé et que c'est plus mes valeurs.
Ouais.
C'est tout.
Ouais, c'est pas grave de changer, et c'est, enfin, on a le droit d'avoir les envies qui changent, et ça je pense que c'est quelque chose qui est souvent difficile à accepter, de se dire moi je vois, en l'occurrence je rêvais d'être VP marketing, et en fait il y a un moment non, c'est plus ça qui est fait pour moi, et bon, clairement il faut l'assumer, le vivre, enfin moi je sais que je l'ai vécu comme un deuil, le truc, mais en fait il y a un moment faut écouter, ouais, faut s'écouter, quoi.
Et c'est vrai qu'en fait ça me paraît fou maintenant d'avoir pensé ça, que c'était catastrophique de sortir de sa voie. Mais bon, après, je dis toujours, c'est encore compliqué, parce que souvent aussi, ce que je dis, c'est toujours cette idée de pression sociale qui continue. C'est que je vois autour de moi les gens, parce que forcément, mes amis, c'est un peu dans le commerce, et donc je les vois évoluer hiérarchiquement, avoir des personnes en dessous, des personnes en dessus, d'avoir le salaire qui évolue, d'avoir plein de responsabilités. Et moi, je me dis, moi, j'évolue. Enfin, je peux complexer, en fait, de me dire, ils ont des postes qui sont importants, et puis. Mais en fait, je suis pas apaisée à 100%. Je suis pas sûre qu'on le soit jamais. Mais c'est comme ça. C'est un rêve aussi. Eux, ils le voient comme ça, en fait. Ils disent, mais en fait, toi, tu réalises ton rêve. Oui, mais bon, enfin, c'est pas tous les jours un rêve, en fait. Donc, on verra.
Ouais, la...
Puis, j'écrirai peut-être pas toute ma vie. Non. Peut-être que j'écrirai autre chose.
T'as des idées de... Tu te dis, peut-être qu'un jour, je ferai autre chose ou...
Déjà, je peux écrire autre chose aussi dans le sens scénario, théâtre. Ça me dirait bien. Scénario, surtout. Et j'ai toujours, ça me plaît toujours aussi de créer un commerce, tu vois, enfin un commerce ou même une marque, des choses comme ça, mais avec les valeurs qui m'iraient. Donc ça, j'y pense toujours. Je me dis toujours, je vais ouvrir une épicerie italienne, tu vois, le genre de trucs comme ça. Après, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus dur que.
Tu sais déjà vendre du fromage.
Je sais vendre du fromage. Je sais le couper. Ouais. Je sais dire avec ceci, donc ça peut marcher.
De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
Je crois que c'est ce deuxième livre, d'avoir réussi alors que c'était hyper dur. Parce qu'il y a eu mille raisons d'abandonner, et que c'est toujours plus facile d'abandonner. Et que c'est un rêve quand même qui continue d'écrire et d'être publié. Et parce qu'en fait, si jamais on écrit un livre, même si on a une maison d'édition, si on propose un livre nul à sa maison d'édition, elle va pas le publier. En fait, c'est ça la réalité. Et donc d'avoir quand même, de m'être surpassée, parce que j'étais vraiment, j'étais fatiguée de ça, de pas retrouver mon écriture et ma créativité ou peu importe. Et donc d'avoir quand même malgré tout continué, j'en suis assez fière parce que c'est, je trouve que c'est quelque chose, c'est pas être allé contre nature, mais un petit peu quand même, tu vois. Et je trouve que dans la vie c'est ça le plus dur, si de faire un truc qui est facile, c'est pas compliqué. En fait, oui, enfin, ok, cool, bravo, mais de faire un truc qui t'a demandé de la sueur et de surpasser tes doutes, ça c'est
sortir de sa zone de confort. Ah, ouais,
mais plus encore, tu vois.
Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux personnes qui ont envie de se lancer, quelque chose, un conseil que des personnes que tu aurais aimé qu'on te donne et qu'on ne t'a pas donné?
C'est ce côté-là, tu vois, de voir le succès des gens. En fait, j'ai une image que j'adore, que j'aurais dû apporter, mais que j'ai pas apporté, mais que tu pourras peut-être mettre. C'est une petite BD où on voit une personne, sa tête, c'est un Rubik's Cube, tu vois. Et dans la première image, c'est un grand bazar, donc t'as toutes les couleurs, dans tout mélangé. Et il voit une photo de lui. Et en fait, il regarde... Attends, je sais plus quoi c'est exactement, mais en fait, la dernière case, c'est le Rubik's Cube qui est parfaitement mis. Et il regarde la photo où il avait le grand bazar dans sa tête. Il se dit, mais si un jour, j'avais su que j'arriverais à ce point, j'aurais pas été stressée du premier point. Mais en fait, on est forcément stressé quand on commence quelque chose, on est forcément en doute. C'est juste que, tu vois, c'est toujours si on se regarde dans le futur, on se regarde dans le passé, on se dit, il y avait pas de raison de s'inquiéter. Sauf que ça, on peut pas le savoir. Donc, il faut juste dire aussi qu'on se lance aussi. Peut-être un jour, on se regardera en se disant, mais c'était pas la raison de s'inquiéter. Et moi, je trouve que ça m'est arrivé parce qu'en fait, quand je me suis lancée, j'avais aucune idée d'où j'allais. Et si je me regarde aujourd'hui, et que ma mère me disait, je me souviens, je disais à ma mère, mais maman, tu verras quand je serai chez Ruquier, mais exprès pour la provoquer parce qu'elle était là, mais dans quoi tu t'es lancée? Elle me disait, mais tu seras jamais sur Ruquier. Je fais, mais je sais très bien que je serai jamais chez Ruquier, mais.
Et pourquoi pas?
On sait pas, mais.
S'ils nous écoutent, ouais, on sait jamais.
Mais ce que je veux dire, c'est que. Il faut bluffer avec soi-même parfois aussi, et se dire que. On le fait pour des raisons. Commencer par pallier, ce que je dis souvent aussi. En fait. C'est pas à pas. Enfin, il faut pas réfléchir. Il y avait une phrase de Grand Corps Malade, je saurais pas la redire exactement, mais qui disait, si j'avais pensé, mon objectif était de remarcher un jour, j'aurais jamais réussi. Mais si l'objectif était de juste faire un pas, ben oui, j'y arrivais. Et moi, mon objectif, c'était de chaque jour d'écrire 1000 mots, dans l'objectif d'écrire un livre, mais chaque jour, c'était écrire tes 1000 mots, Sophie. Et c'est bien aussi de se faire des petits objectifs,
ouais, des
de
pas
se faire des objectifs. Évidemment, si j'avais commencé en me disant, mon objectif est d'être publié chez Albin Michel, bah non, j'aurais vite déjanté en me disant, mais Sophie, pas déjanté, déchanté. Voilà, les deux peut-être.
Ouais.
Et voilà. Donc ça, c'est plein de conseils que je viens de donner en désordre. Mais c'est...
Mais vous les prenez comme ça.
À l'image de ce qui se passe dans ma tête.
Et ta maman, justement, tu disais qu'elle te disait, mais ma fille, tu seras jamais chez Ruquier. Comment tu le vis quand ta maman, elle te dit ça?
Non, mais je comprends mille fois qu'elle dit ça. En fait, ma mère, elle est très inquiète de... qu'on puisse être déçu, je pense. Elle se disait, mais j'espère, je pense qu'elle se disait.
C'est la protection.
Ouais, et puis, j'ai beaucoup de second degré, et ma mère n'a pas ce genre d'humour-là, c'est pas son type d'humour. Et donc, du coup, pour elle, peut-être que c'était sérieux, tu vois. Et donc, elle me disait, mais la pire chose qui puisse arriver. Mais c'est vrai, quand on est mère, on se dit, la pire chose qui puisse arriver à ses enfants, c'est d'être déçu. Et donc, peut-être qu'elle se disait que j'y croyais vraiment, alors que j'y croyais pas du tout, et j'y crois toujours pas, mais. Parce que je voulais juste la provoquer un petit peu parce que j'aime bien faire ça et puis c'est pas sa personnalité. C'est vrai que c'est des choses bêtes, mais pour elle, prendre le train pour venir me voir d'Albi à Paris, c'est compliqué, tu vois. C'est pas un truc qui lui appartient dans sa éducation, dans sa vie. Donc je comprends aussi que la zone d'inconfort que peut être d'écrire un livre comparé à juste prendre un train, ça soit, mais pour elle, inimaginable en fait.
Ouais. Voilà. À qui tu as envie de dire merci avant qu'on se quitte? Et pourquoi?
À mes parents, quand même, malgré tout. Enfin, même pas malgré tout, c'est horrible d'avoir dit ça, mais c'est parce que même si c'est pas... si c'est pas quelque chose qui leur ressemble et tout, ils ont quand même toujours été là, et ils sont toujours. Et je trouve que c'est fou d'avoir donné ces armes-là à des enfants quand c'est si loin de ce qu'on a pu connaître. Et après, bien sûr, à mon mari qui franchement, le livre serait resté dans le tiroir. Donc voilà, et puis même aujourd'hui, il continue de me valoriser, de croire en moi. Et c'est important parce qu'il y a des jours où on ne croit plus en soi du tout, quoi.
Ouais.
De bien s'entourer, c'est quand même... Parce que dans mon parcours, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pu vraiment me faire douter. Mais pas volontairement aussi. Hein. Il y a des gens qui se font douter parce que c'est pas leur vie et que eux disent ça d'une phrase un peu détachée et toi, c'est ta vie. Donc, t'es là, mais c'est horrible ce que tu viens de me dire. Et eux, c'est juste une phrase comme ça dans leur vie qui n'a pas compté.
Ouais, il faut croire en sa bonne étoile, enfin, croire en son intuition. C'est ce que disait d'ailleurs Pénélope Boeuf de l'épisode numéro 1, où elle disait que quand elle a lancé son podcast de l'arnaque, qui maintenant, il y a des millions d'écoutes, au début, les gens lui ont dit, mais attends, t'as un format de 4 minutes, mais enfin, c'est n'importe quoi ton
mais
truc.
Moi, j'ai eu ça aussi. Si, en fait, ça arrive tout le temps, en fait. Et c'est juste... je sais pas si j'ai cru en moi. Enfin, c'est juste que, de toute façon, mon objectif, c'était de finir mon livre. Donc, bon, peu importe. Et puis, puis effectivement, c'est totalement contradictoire, en fait. Et puis, quand je dis aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient qu'ils avaient écrit un livre, on se rend compte aussi qu'ils ont écrit un livre, mais il y a toujours un mais, tu vois. Je me souviens d'un mec qui m'avait dit... Il parlait d'écrire un livre parce qu'il disait qu'il avait une enfance incroyable, une vie incroyable. C'est une vieille personne âgée qui me disait ça. Et puis, dernière phrase qui me dit, il faut juste que je trouve quelqu'un pour l'écrire. Ça, mais en fait, fait, entre ce que disent les gens, autant pour ce qu'ils disent par rapport à nous, dans ce qui peut nous décourager, autant ce qu'ils disent par rapport à eux-mêmes. En fait, moi, je suis très honnête envers moi-même, donc je me voile pas trop la face. Mais il y a plein de gens qui se la voilent et qui, du coup, nous voilent la face aussi à nous, tu vois. Donc,
C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des pros et qui vont. Bah, c'est typiquement l'exemple de Pénélope où c'était des pros. Mais en fait, il y a un moment. C'est ça le monde. Enfin, on a le droit de créer des nouvelles choses, sinon on n'en inventerait plus rien de nouveau et les choses n'évolueraient pas. Donc en fait, c'est savoir se faire confiance en fait.
Puis il faut faire attention à la nature humaine parce que c'est, enfin, même nous, on a des côtés noirs. En fait, on n'est pas toujours exemplaire. Moi, je lutte aussi parfois pour pas être une mauvaise personne. Enfin, tu vois, il faut juste se dire que peut-être un pro qui voit arriver une Pénélope avec son podcast. Est-ce qu'il a envie de l'aider? Enfin, il y a des gens qui sont pas bons au fond, tu vois, et donc il faut prendre conscience que s'entourer des bonnes personnes, parce que les autres, on sait pas ce qu'elles ont au fond, tu vois.
Ouais.
J'ai dit beaucoup, tu vois. Mais... Ouais.
Je vois quand même. Merci beaucoup, Sophie.
Avec plaisir.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme je vous le disais, je vous recommande très vivement le premier roman de Sophie, Le Pacte d'Avril. J'ai eu le plaisir de le lire il y a désormais un an, un vrai bol de fraîcheur. Au vu du contexte actuel, la publication du deuxième roman de Sophie a été décalée au 3 juin prochain. La bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, nous avons le droit de connaître le titre. Il s'agit de la somme de nos vies. Comme on dit dans le Sud, il me tarde de pouvoir le lire. Je vous mets tous les détails et les liens sur pourquoipasmoi.co et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?